Et j'espère que vous prenez le temps de bien réfléchir aux paroles des chants que nous chantons. Parfois, ce sont des chants bien connus et parfois on a la tentation un peu de voilà, les chanter juste comme ça, sans trop réfléchir aux paroles. Mais je vous encourage à chaque fois de vraiment réfléchir sur les paroles, laisser cela vous pénétrer, vous parler par la grâce de Dieu. Alors maintenant, on va réfléchir sur autre chose, la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, nous commençons aujourd'hui une série de messages sur cette épître. L'Épître aux Éphésiens, vous connaissez l'arrière-plan, le contexte historique. Paul, il est en prison. Et de la perspective du monde, on va dire tout va mal pour lui. Tout va mal, il est en prison. Il y a des gens qui, par jalousie, prêchent la parole. Ils essayent de faire du mal à l'apôtre Paul. Paul, il est limité dans son sphère d'action. Quand on est en prison, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas où on veut, on n'a pas tous les conforts. Et pourtant, c'est lorsqu'il est là, en prison, qu'il va écrire ces merveilleux épîtres de Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Par la suite, il sera de nouveau en prison lorsqu'il va écrire les deux épîtres à Timothée. Et du coup, la deuxième épître à Timothée. Et Paul, alors qu'il est en prison, ne s'apitoie pas sur son sort en disant « pauvre à moi ». Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux à tout prix sortir d'ici? Seigneur, ne vois-tu pas tout ce que je peux accomplir pour toi? Ne vois-tu pas tout le travail encore à faire? Non. En fait, Paul, alors qu'il est en prison, il pense aux églises. Il pense à ses frères et sœurs qu'il a pu connaître dans les églises qu'il a soit établies ou par lesquelles il est passé. Et là, il prend de son temps. Il en avait. Quand on est en prison, ce n'est pas comme si on est occupé avec autre chose. Il avait du temps. Et du coup, bien sûr, il passait beaucoup de temps dans la prière, comme il va expliquer par la suite. Mais il prend le temps d'écrire à ses églises. Et bien sûr, ce n'était pas comme aujourd'hui, où dans quelques secondes, on peut taper un petit message et puis envoyer ça, et tout de suite, l'autre personne le reçoit. Non, il fallait qu'il écrive, et il a sûrement dicté cet épître, mais il fallait que quelqu'un écrive à la main, et qu'ensuite, cela soit envoyé, et non pas comme à la poste aujourd'hui ou ici en France, le métropole, une lettre, ça prend peut-être deux jours. Là, c'était à l'époque de Paul, des semaines, voire des mois. Donc, quand il écrivait de Rome, là où il était sûrement emprisonné, jusqu'à Éphèse, déjà le temps d'envoyer la lettre. Et si les Éphésiens voulaient répondre, le temps de renvoyer la réponse. Et pourtant, Paul le fait. Et on voit qu'il a à cœur ces chrétiens d'Éphèse. Et permettez-moi de lire tout simplement les trois premiers versets de cet épître, parce que c'est là-dessus que nous allons concentrer un peu comme notre introduction à cette série de messages. Éphésiens chapitre 1, les trois premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Prions. Oui, Seigneur, nous te remettons ces moments que nous passons dans ta parole, que tu diriges nos pensées, notre réflexion, qu'à travers ta parole, tu continues de nous transformer comme tu le veux, que nous soyons réceptifs à ce que tu as pour nous et que tu reçois la gloire pour ce que tu feras dans le cœur de chacun d'entre nous. En ton nom. Amen. Alors, trois petits versets, petite introduction, et Paul, il va se servir de ces formules que nous voyons dans ces versets assez souvent, dans ses épîtres. L'épître aux Galates fera exception parce qu'il y avait une grave erreur dans l'église de Galates qu'il fallait corriger. Et cette erreur, c'était que les gens commençaient à dévier de l'évangile. Et là, Paul dit, ah non, c'est Jésus-Christ seul. Mais à part l'épître aux Galates, pratiquement toutes les autres épîtres de Paul commencent plus ou moins de la même façon. Et Paul, bien sûr, il se présente, il dit, voilà, c'est moi, Paul. Et il s'appelle apôtre de Jésus-Christ. Et par moment, et je suis coupable de ceci également, je suis convaincu qu'on met Paul un peu en hauteur. On dit, voilà, Paul, l'apôtre, quand même, on voit tout ce qu'il a fait, tous les kilomètres qu'il a parcourus, les églises qu'il a implantées, les gens qu'il a encouragés, des personnes qu'il a formées. On pense à Tite, à Timothée, à Silas, à d'autres. Et on se dit, voilà, Paul, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un super chrétien. Vous savez, à l'époque maintenant, c'est à la mode de parler des super-héros. Ils en font des films, ils font des bandes dessinées, enfin, on en parle beaucoup. Et on dit, voilà, dans le milieu chrétien, Paul serait le super-héros chrétien. Voilà, il est là, au-dessus, en hauteur. Et c'est un niveau qu'on ne pourrait jamais atteindre. On pourrait faire de notre mieux, mais quand même, Paul, il est à part. Oui, quelque part. Dieu l'a destiné pour un ministère spécifique qui lui a annoncé dès sa conversion. En même temps, oui, Paul, il est apôtre. Donc, il a reçu ce ministère précis. Et pourtant, il est apôtre de Jésus-Christ. Et autant Paul, il a travaillé pour le Seigneur, il a accompli des choses extraordinaires pour le Seigneur, aujourd'hui, 21e siècle, avec les moyens que nous avons, nous devons, je dirais, accomplir de grandes choses pour Dieu. Parce que nous ne sommes pas apôtres dans le sens du Nouveau Testament, mais nous sommes apôtres dans le sens de envoyer. Le mot apôtre, en fait, il voulait tout simplement dire quelqu'un qui est envoyé. Parfois, on va parler de messager, mais un envoyé. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Nous sommes des envoyés. Non pas apôtre dans le sens que nous avons vu Jésus-Christ depuis le début de son ministère jusqu'à sa mort et sa résurrection. Non, ça c'était un ministère spécifique pour les 12 apôtres, et ensuite celui qui a remplacé Judas, et ensuite Paul. Mais nous sommes apôtres de Jésus-Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons ce titre de ministre, de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ. Et Paul, il était imprégné de cette responsabilité qu'il avait. Et bien sûr, par moments, ça lui arrivait de faire des tentes pour souvenir à ses besoins. Il vivait sa vie un peu comme tout le monde. Et pourtant, il était saisi, il était totalement imprégné de cette responsabilité qu'il a reçue de la part de Dieu d'être son apôtre, son envoyé, donc envoyé de Jésus-Christ. Et dans ce sens, nous sommes comme Paul. Paul n'est pas extraordinaire dans ce sens. Non, nous sommes exactement comme lui. Et nous devons nous poser la question, eh ben, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour montrer la réalité de ce ministère que j'ai reçu? Si je peux dire aujourd'hui que je suis un envoyé de Jésus-Christ, qu'est-ce qui, dans ma vie, le montre? Paul, il allait un peu partout. Il prêchait, quand il arrivait dans une ville, bah, il annonçait l'évangile. En vivant sa vie, il formait d'autres. Le quatrième chapitre de cet épître va montrer que le ministère de l'Église, c'est quand même de former des personnes. Et lorsque nous examinons notre vie, qu'est-ce qui montre dans notre vie que nous accomplissons ce ministère d'envoyé de Jésus-Christ? Y a-t-il des preuves? Oh, peut-être est-ce que Dieu veut qu'on soit à l'œuvre pour lui, parce que nous ne sommes pas à l'œuvre pour le moment. Paul, il écrit à cette église et il leur dit, voilà, je suis apôtre, je suis envoyé, je suis en prison, c'est vrai, je suis limité dans mon sphère d'action, mais je ne suis pas inactif. Je continue de travailler pour le Seigneur. Et puis, bien sûr, nous voyons apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu l'avait choisi. Et nous n'avons pas lu ces versets, mais regardez versets 4 et 5. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons examiner plus en détail ces versets, mais en lui, en Jésus-Christ, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour. Dieu a fait un choix. Ce ne sont pas nous qui sommes allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Et oui, nous avons notre libre arbitre, et on va parler un peu de cette supposée tension entre le libre arbitre, le choix de Dieu et ce que cela implique. Mais Dieu nous a choisis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous a choisis alors qu'on n'avait rien pour lui plaire. Ce n'est pas comme si Dieu regardait sur toute la terre, il a dit « Ah oui, voilà quelqu'un qui me plaît. Voilà quelqu'un qui est déjà assez bien pour que je puisse me servir de lui. Voilà, je vais sauver cette personne et cette personne pourra faire des choses extraordinaires pour moi. » Non, souvenons-nous de ce que Paul faisait avant sa conversion. Bah, déjà, il s'appelait Saul et il persécutait l'Église. Il mettait à mort des personnes. Il avait un zèle déplacé pour Dieu. Il croyait faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, il faisait tout le contraire de ce que Dieu voulait. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Tout comme si nous sommes sauvés aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Et cette vérité-là doit changer notre optique sur notre vie aujourd'hui. Nous sommes sauvés et nous avons un ministère à accomplir pour Dieu, non pas parce que nous sommes quelque chose, non pas parce que nous le voulons, non pas parce que nous avons toutes les capacités qu'il faut, non pas à cause de quelque chose en nous, mais parce que Dieu nous a choisis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, Paul va suivre ce raisonnement jusque dans le chapitre 2 où il va parler du salut. Et il va dire, ce ne sont pas par les œuvres, bien sûr, mais c'est par la foi, par la grâce qu'on est sauvé. Ça vient de Dieu. Et dans notre monde, où on met tellement l'accent sur la capacité des uns des autres, où on élève chacun en disant l'estime de soi, il faut vraiment soutenir cela, et on le vaut bien. Voilà, il faut dire aux gens leur estime, de comment ils se voient eux-mêmes. Bah, il faut leur dire, vous le valez bien et tout. Et Dieu dit, non. On a du prix, on est précieux, on a de la valeur, non pas à cause de ce que nous sommes, mais parce que Dieu nous a choisis. C'est par la volonté de Dieu. Et il continue dans ce verset, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux fidèles, et je m'arrête sur ce mot quelques instants, fidèles. Fidèles pourquoi? Ben parce qu'ils persévéraient dans l'amour. Paul, il va les louer pour cela. Parce qu'ils persévéraient dans leur vie avec Dieu. Mais fidèles, parce que Dieu les gardait. Parce qu'il est vrai, par moments, nous sommes infidèles, n'est-ce pas? Des fois, nous désobéissons à Dieu. Des fois, nous tombons dans le péché. Des fois, nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. C'est une réalité. Et quelqu'un qui dirait le contraire, n'a pas compris la Bible. Et pourtant, malgré notre infidélité, Dieu reste fidèle. Gloire à Dieu. Et si ces fidèles en Jésus-Christ n'étaient pas simplement fidèles par eux-mêmes, mais ils étaient fidèles parce que Dieu les gardait. Tout comme ils étaient saints, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils avaient reçu la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas simplement pour les Éphésiens. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, c'est le cas de nous aujourd'hui. Nous sommes saints. Non pas comme ces statues qui sont parfois adorées, auxquelles on prie. Non. La Bible ne parle pas du tout de cela. D'ailleurs, le condamne. Mais nous sommes saints par la sainteté de Dieu, que Dieu nous donne, en Jésus-Christ. Et nous sommes fidèles, non pas parce que nous sommes toujours fidèles, mais parce que la fidélité de Dieu est en nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la réalité de chaque enfant de Dieu. Ça, c'est ma réalité, c'est la vôtre. Et c'est cette réalité que nous devons vivre chaque jour. Lorsque nous sommes au travail et on est face à des gens qui rejettent la Bible, nous sommes face à des gens qui se moquent de nous, nous sommes face à des gens qui ne font aucun cas des choses de Dieu, nous sommes appelés à manifester, à vivre cette réalité de la sainteté de Dieu, de sa fidélité. Et ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour les Éphésiens. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Et Paul dit, voici la réalité, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Dieu a fait. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, avec ce premier verset, comment pourrions-nous être découragés? Comment pourrions-nous baisser les bras? Comment pourrions-nous nous écarter de ce que Dieu a pour nous avec ce simple verset? Et pourtant, je l'avoue, ça m'arrive d'être découragé. Vous savez, il ne faut pas croire, ça arrive aux pasteurs d'être découragés. J'espère que je ne vous choque pas avec ça, mais les pasteurs peuvent être découragés. Voici pourquoi ils ont besoin de la prière. Et merci Seigneur pour les gens qui prient, pour les pasteurs et vous qui priez pour moi. Et pourtant, des pasteurs, les chrétiens, chaque enfant de Dieu, par un moment donné, peut être découragé. Et pourtant, il n'y a pas de raison. Lorsque nous ressentons ce sentiment de découragement ou de lassitude venir, lorsque nous ressentons les attaques de l'ennemi, de revenir à ces vérités, comme ce verset 1, et dire « Voici la réalité. Dieu, tu as tant fait pour moi, je me confie en toi, non pas pour le salut, parce que je l'ai déjà, mais pour vivre ma vie aujourd'hui. » Et puis, au verset 2, Paul fait quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Il prie pour les Éphésiens. Il avait tellement l'habitude de le faire que c'était quelque chose de tout naturel. Regardez cette prière, verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce monde, s'il y a deux choses dont nous avons besoin, c'est la grâce et c'est la paix. La grâce, parce que les gens font le mal, et parfois on a envie de les punir, on a envie de les secouer un peu en disant « Mais ne vois-tu pas que ce que tu fais est mal, que tu es en train d'aller contre la volonté de Dieu, que tu es en train d'aller contre le plan de Dieu ?» Et parfois, les gens nous font mal spécifiquement. Ils disent, ils font des choses. Et on a ce sentiment un peu de revanche, où on veut réagir. On monte le ton. On a des paroles, on a des gestes, et on a des pensées. Et ce dont nous avons besoin, c'est la grâce. Non pas pour tout excuser, mais pour accorder à d'autres ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. La grâce et puis la paix. La paix dans ce monde qui est tellement instable et qui, à mes yeux et peut-être aux vôtres, devient de plus en plus fou. Je le vois ici en France, en Europe, je le vois énormément aux États-Unis. C'est comme si on est sur une pente glissante et ça ne cesse d'augmenter la vitesse. C'est hallucinant. Et dans l'instabilité qui est là, où on se dit, mais qui faut-il croire? Qu'est-ce qu'il faut croire? En qui, en quoi est-ce que je peux mettre ma confiance? D'avoir la paix de Dieu. Cette paix, d'ailleurs, Paul va le dire aux Philippiens, qui surpasse tout entendement, toute pensée, qui va au-delà de ce que nous pourrions penser ou espérer. C'est cette paix-là dont nous pouvons bénéficier. Mais regardez, ce verset 2, il est une prière. Et on n'a pas toujours cette optique sur ce verset, mais c'est bel et bien une prière. Parce que Paul, ici, est en train de demander à Dieu de donner quelque chose aux Éphésiens. Il dit, je demande à Dieu de vous donner, à vous, Éphésiens, la grâce et la paix. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Paul qui prie ça pour ses frères et sœurs en Christ. Et il ne le priait pas simplement pour les Éphésiens, il le priait pour tous les enfants de Dieu qu'il connaissait. Et de penser dans ma vie, vous de penser dans votre vie, est-ce que c'est une prière que nous faisons régulièrement? Et je dois avouer que ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à prier. On prie pour les besoins matériels, et cela est juste. Parfois, on a quelque chose qui tombe en panne, ou on a quelque autre souci matériel, souci physique, quelqu'un tombe malade, on casse quelque chose, et on prie pour cela. On prie parfois pour sagesse. Et cela est juste, Dieu nous dit dans sa parole, dans l'épître de Jacques, si on manque de sagesse, il faut prier. Mais est-ce que nous prions pour les autres que Dieu leur donne la grâce et la paix? Et je dois avouer que rares sont mes prières où je demande à Dieu spécifiquement d'accorder sa grâce et sa paix à quelqu'un. Et je devrais commencer. Nous devons commencer à prier dans ce sens. Dieu, accorde ta grâce à cette personne. Peut-être je ne sais pas exactement par quoi cette personne passe, ou peut-être je sais très bien les circonstances par lesquelles cette personne passe, et je sais que cette personne n'y arrivera pas tout seul, et que cette personne aura besoin pour surmonter soit une tentation, une épreuve, une difficulté. Cette personne aura besoin de la grâce de Dieu. Et je dois prier spécifiquement pour ça. Ou bien la paix. Parfois, on est troublé. On entend une nouvelle. Là, cette semaine, la femme de quelqu'un que je connais aux États-Unis, qui était dans l'église où on était, a eu un accident très grave. Quelqu'un qui conduisait en étant ivre est venu face à face. Accident très très grave. Elle a failli perdre la vie. Elle était aux soins intensifs, beaucoup d'opérations. Elle aura un long parcours pour récupérer. Mais là, on apprend ça, et son mari, bien sûr, très, très troublé. Ils sont chrétiens tous les deux, donc ils se confient en Dieu, gloire à Dieu, mais c'est troublant, ça déstabilise. On entend parler de quelqu'un qui a une maladie, cancer ou autre. On entend parler de choses différentes, et puis ça peut très très vite nous enlever la paix que Dieu veut nous donner. Et ici, Paul prie pour la paix. La paix, la tranquillité, le repos. Et combien nous en avons besoin dans notre société aujourd'hui. Et il faut prier cette prière pour soi-même. Dieu, tu as promis de me donner la paix, alors je te fais confiance, donne-moi cette paix, donne-moi ta grâce. Et cela est juste, mais ne soyons pas aussi égoïstes que pour ne prier que pour nous-mêmes. Non, les autres, ils ont besoin. Les autres passent par des moments difficiles. Les autres ont besoin de la paix de Dieu, tout comme nous. Et notre prière devrait comporter cet aspect de prier à la fois pour la grâce de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs, mais aussi pour sa paix. Nous pensons à nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Et notre prière, oui, il est juste de prier pour qu'ils soient délivrés, qu'ils n'aient pas à subir des persécutions. Mais si dans la volonté de Dieu, ils doivent subir ces persécutions, notre prière devrait être, Seigneur, garde-les. Seigneur, accorde-leur la grâce de bien réagir. Seigneur, donne-leur la paix pour supporter ces choses par lesquelles ils passent. Et bien sûr, ce n'est pas notre propre grâce, ce n'est pas notre propre paix, mais comme Paul l'indique dans ce verset, que ces choses vous soient données de la part de Dieu. Et puis, de Dieu, notre Père. Notre Père, il est celui qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui nous corrige lorsque nous en avons besoin. Il est le Tout-Puissant, donc il pourvoit à tous nos besoins. Il est là, il nous soutient. Et puis, du Seigneur Jésus-Christ. Cette expression, Seigneur, ça veut dire, il règne. Il est le Maître. Le Maître Jésus-Christ. Ça veut dire, il a le droit de nous dire comment nous devons nous comporter. Il a le droit de nous dire ce qu'il attend de nous. Et il a le droit d'attendre de nous la soumission et l'obéissance. Il est réellement Seigneur. Mais malheureusement, trop souvent, nous vivons notre vie comme si nos choix étaient les nôtres. Comme si Jésus n'était pas réellement maître de notre vie. Et Paul dit, je prie vers ce Dieu Père, il pourvoit, il veille, il soutient. Et aussi je prie vers Jésus-Christ qui est le maître, qui a le droit de contrôler ma vie. Et je prie spécifiquement pour la grâce et la paix. Et est-ce que nous sommes dans cette optique? Je dois admettre que j'y suis rarement. Que je dois être de plus en plus dans cette optique. Alors ce verset 2, Paul fait cette prière. Et puis au verset 3, c'est comme s'il déborde de louange, d'adoration envers Dieu, et dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc il vient de dire « Je prie vers ce Dieu, Père, ce Seigneur Jésus-Christ pour vous ». Et c'est comme si, pendant qu'il y pense, il dit « Ah oui, ce Père, il est si merveilleux. Ce Dieu, il est tellement grand. Ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. » Je dois exprimer encore des choses par rapport à lui. Et béni soit le Dieu, exalté, loué, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons dans la suite de verset 3, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et cette partie du verset est tellement riche, nous voyons que ceci s'applique à tout chrétien. Il n'y a aucun chrétien qui n'est pas concerné par ce verset. Si nous sommes enfants de Dieu, ceci nous concerne. Aucun enfant de Dieu est exclu. Aucun enfant de Dieu peut dire « Ah, je n'ai pas cela. Ceci ne s'applique pas à moi. » Non, non, non. Qui nous a bénis. Nous. Il écrivait aux Éphésiens. Mais il parle de tous les enfants de Dieu. Il nous a bénis. Alors, c'est assez intéressant. Paul, ici, emploie dans le grec un verbe et il dit « Cela est arrivé dans le passé. » Et en fait, c'est à la fois au moment de la mort de Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour tous ceux qui allaient croire, mais aussi c'est au moment de notre salut, ce moment où, si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, à un moment donné, ce moment où nous avons accepté ce don gratuit de la part de Dieu, Dieu nous a bénis. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui a des effets qui continuent aujourd'hui et jusque dans l'avenir. Ce n'était pas une fois dans le passé et les effets de cela restent dans le passé. Non, c'est quelque chose qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, qui nous a bénis, et on pourrait mettre entre parenthèses, et qui continue de nous bénir aujourd'hui, et qui continuera de nous bénir dans l'avenir. Et Paul dit, de toute bénédiction spirituelle. Et là encore, rien n'est exempt. Y a-t-il une bénédiction spirituelle avec laquelle vous n'avez pas été béni? Et sur la base de ce verset, la réponse à cela est non. Il n'existe aucune bénédiction spirituelle avec laquelle vous n'avez pas été béni. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu, en Jésus-Christ, au moment de notre salut, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et pourtant, comment est-ce que nous vivons notre vie la plupart du temps? Comment est-ce que moi, je vis ma vie la plupart du temps? Eh bien, comme je ne suis pas béni. Au lieu de vivre avec un bon repas bien garni, comme nous apprécions si souvent et que Dieu voulant, on appréciera après le culte aujourd'hui, ben nous vivons avec quelques miettes de pain sec, un peu d'eau. C'est comme si quelqu'un avait dans son compte en banque des milliers, voire des millions d'euros et qui pourtant vivait à la rue. Ce serait tellement contradictoire. Non mais, à la banque, dans ce compte, il y a des milliers, des millions d'euros. Et tu vis à la rue? Non mais, pourquoi? Ah bah parce que je m'y sens bien. Bon, d'accord. Bah parce que, voilà, j'ai pas le choix. Et pourtant, dans le compte, il y a tout cet argent. Et l'image, elle est la même. La réalité, qu'on le voit ou pas, qu'on la vit ou pas, la réalité, c'est si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons été, sans exception, bénis de toutes les bénédictions spirituelles, sans exception. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous, de toute bénédiction spirituelle. Et il y en a. Et nous pourrions même dire, elles sont infinies. Parce que ces bénédictions spirituelles viennent de la part de Dieu. Et ces bénédictions spirituelles comportent, oui, la joie, la paix, le contentement, la grâce. Toutes les choses qui nous permettent de vivre une vie qui est agréable à Dieu, ces choses sont à notre disposition. Entre guillemets, sont dans notre compte en banque spirituelle. Et nous vivrions dans la rue spirituellement, mais ça n'a aucun sens. Et pourtant, nous le faisons, je le fais. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut de nous. Non, il veut qu'on se serve de ses bénédictions pour bénir d'autres, pour agir pour lui, pour témoigner. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et là, quelqu'un va dire, oui, mais attention Robert, il y a la suite du verset. Dans les lieux célestes en Christ. Oui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, mais c'est dans les lieux célestes. C'est quelque chose dont il faut attendre pour être arrivé au ciel. C'est dans les lieux célestes, mais moi je ne vis pas dans les lieux célestes. je vis quand même sur la terre. On est des êtres terrestres, matériels. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout comme Jésus-Christ est mort sur la croix dans le passé et que sa mort a eu des conséquences spirituelles qui nous affectent aujourd'hui, exactement de la même façon, ces bénédictions spirituelles dont nous bénéficions, oui, sont spirituelles. Et pour le plein accomplissement de cela, nous devons attendre d'être au ciel. Nous pouvons bénéficier de cela aujourd'hui. Il nous a bénis de toutes ces bénédictions spirituelles. Et même si ces bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes, elles agissent dans notre vie, sur la terre, aujourd'hui. Et c'est en Christ. Dieu nous a bénis en Christ. Et du coup, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, tout simplement une idée, une bonne pensée, mais c'est quelque chose qui devrait régir toute notre vie. Et lorsque nous allons pour témoigner, de se souvenir, nous avons été bénis. La personne qui est en face, peut-être elle se moquera de nous, peut-être elle nous rejettera, peut-être elle aura des paroles dures, peut-être elle sera réceptive, mais peu importe. Dieu m'a béni de toute bénédiction spirituelle, alors je peux et je dois témoigner. Je suis face à des collègues de travail désagréables. Je peux rester en paix parce que j'ai été béni, je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. J'ai une vie familiale compliquée, complexe, difficile. Ou peut-être tout va bien. Peu importe, je peux faire face à tout dans la famille parce que je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Dans l'Église, on a des tensions. Paul, il va en parler. Il va dire, attention. Il le disait à deux femmes, réconciliez-vous. Il va les citer de noms, vous imaginez. Dans la Bible, il y a le nom de deux femmes qui apparemment ne s'entendaient pas. Et Paul va dire, entendez-vous, réconciliez-vous. Et ils sont là pour les chrétiens de tous les siècles à voir. Imaginez-vous la honte. Moi, je ne voudrais pas que ce soit moi. Mais dans l'Église, par moments, il y a des tensions. Il y a des conflits. Et qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, de se souvenir, moi, tout comme l'autre personne, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons nous réconcilier, nous pouvons aller de l'avant. Tout est possible, tout comme Paul va dire aux Philippiens, je puis tout. Comment? Par celui qui me fortifie, par Jésus-Christ. C'est possible. Et Paul va se servir de ces versets pour ensuite se lancer dans une louange extraordinaire envers Dieu. Et ça, c'est dans les versets qui suivent. Et nous allons prendre le temps d'examiner cela en détail la semaine prochaine. Mais nous voyons Paul qui vit dans la réalité de son statut d'enfant de Dieu. Verset 1, il sait quel est le travail que Dieu lui a donné à faire. Au verset 2, il va prier pour ses frères et sœurs en Christ pour que la paix et la grâce leur soient données. Et au verset 3, il va exalter Dieu pour les bénédictions qu'il lui a donné. Et tout cela à partir de sa prison. Tout cela après avoir subi tant de choses, d'avoir été lapidé, d'avoir fait naufrage, d'avoir eu tous les soucis de l'Église, avoir été en danger, avoir été mal compris. Pourtant, il gardait les yeux fixés sur ces choses essentielles. Et quel exemple pour nous ? Aujourd'hui, peut-être nous passons par des choses difficiles. Aujourd'hui, peut-être on est troublé. Aujourd'hui, peut-être on ne se sent pas bien. Aujourd'hui, peut-être par la grâce de Dieu, entre guillemets, on se sent en forme spirituellement. Gloire à Dieu. Ne perdons pas cette perspective que cela vient de Dieu. Et prions les uns pour les autres. Si aujourd'hui on se sent bien, peut-être demain on ne se sentira pas bien. Et on aura besoin de la prière des uns des autres. Et aujourd'hui, alors qu'on se sent bien, prions pour ceux qui passent par des moments difficiles. Parfois, Dieu emmène dans notre esprit la pensée de quelqu'un. On se dit, je pense à tel, une telle. Et à ce moment-là, Seigneur, je ne sais pas par quoi cette personne passe, mais je vais prier pour cette personne. Je vais prier spécifiquement pour la grâce, pour la paix, aujourd'hui. Quel exemple pour nous ? Ce sont des choses concrètes que nous pouvons faire. La vie chrétienne, oui, elle est spirituelle, mais elle se vit concrètement au jour le jour. Est-ce que nous sommes en train de le faire ? Est-ce que nous sommes en train de suivre cet exemple de l'apôtre Paul ? Nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous devons, et nous devons prier les uns pour les autres et exalter Dieu pour qui il est, pour ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Prenons cet engagement, je vous encourage, bien sûr c'est un choix individuel, personnel, mais prenons cet engagement ensemble de vivre ces versets aujourd'hui, demain, tout au long de la semaine. Dimanche prochain, on reviendra par la grâce de Dieu et on reverra cela et on verra les versets qui suivent où Paul va s'élancer dans cette louange envers Dieu que nous devons aussi imiter. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole et pour l'apôtre Paul que tu as utilisé pour nous montrer ces choses. Et nous demandons ton aide. Nous sommes oublieux, nous sommes insuffisants, nous sommes infidèles. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous ta grâce, toujours pour mettre en pratique ces principes, pour voir clair, pour aider ceux qui nous entourent, pour nous souvenir de prier les uns pour les autres. Seigneur, que tu nous remplis de ta force, que tu nous remplis de ta fidélité, que tu nous fasses avancer avec toi, que ce soit évident pour tous ceux qui nous entourent, que les gens te voient en nous et à travers nous, qu'ils t'exaltent à cause de cela et qu'ensemble nous puissions avancer pour toi et pour ta gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.